Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, nous allons savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Ngana kota kana kanda ya Kongo na biso lokwa ba tomosusu ba kota kona kati na Kongo na biso ba ngati ba ba baby sa Kongo na biso nde yango nde na bite na zipi mwana mosi ni sa so tuna mokirobo na inite yango basi bazala kana kati ufona kota tena simba bondoki na bundira pe Kongo na ngebo.
Partout ailleurs dans le pays, les démobilisés éprouvent des difficultés énormes. Leurs conditions de vie laissent à désirer. Dans la plupart des cas, il n'existe aucune structure de prise en charge en soins de santé, en alimentation, en hygiène et beaucoup d'autres dans certains sites de transit. Ces ex-combattants sont abandonnés à eux-mêmes. Leur réinsertion dans la vie sociale traîne encore à être effectif. À ce sujet, nous allons faire un tour dans le pays pour voir comment ils vivent concrètement. J'aimerais avoir tous vos SMS à ce sujet au 081 070 20 50. Et pour ceux-là qui nous suivent sur internet sur www.radiocapi.net, allez écrivez-nous donc à action@radiocapi.net.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une vérité.
Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo. Vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous êtes bien sur la radio Capi. Hein. Vous savez que partout ailleurs dans le pays, les démobilisés éprouvent des difficultés énormes. Leurs conditions de vie laissent à désirer. Dans la plupart des cas, il n'existe aucune structure de prise en charge en soins de santé, en alimentation, en hygiène et beaucoup d'autres dans certains sites de transit. Ces ex-combattants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à leur triste sort et leur réinsertion dans la vie sociale prennent encore à être effective. À ce sujet, nous allons faire un tour dans le pays pour voir comment vivent concrètement ces démobilisés, ces ex-combattants, avec Julie-Laure Mbalivoto qui nous présente justement un reportage à cet effet.
En 2004, près de 11 000 enfants soldats ont été démobilisés à travers toute la RDC. Cette année, plus de 7 500 sont déjà démobilisés. Le nombre de ces enfants soldats en démobilisation ne fait qu'accroître. Plusieurs raisons concourent à l'enrôlement des enfants dans l'armée. Les uns sont recrutés de force, d'autres s'enrôlent dans l'armée de leur propre gré. Ceux qui sont recrutés de force sont soit enlevés à l'école, chez eux ou dans la rue par les forces gouvernementales ou par les groupes armés. Ceux qui vont de leur propre gré le font souvent à cause de la pauvreté. Dans une situation économique et sociale du pays aggravée par la guerre qui fait que les familles connaissent encore plus de difficultés. Du coup, pour être en mesure de manger quotidiennement et de survivre, certains enfants se croient obligés à prendre les armes, d'où le phénomène enfant soldat. Une fois enrôlés, ces enfants doivent s'acquitter de toute une série de tâches. Si beaucoup prennent part au combat, d'autres sont utilisés à d'autres fins, sexuelles, comme espions ou beaucoup d'autres travaux domestiques. Certains encore doivent poser ou enlever des mines terrestres, suivant les témoignages de ces deux filles.
Ngana kota kana kanda ya Congo na biso lokwa ba tomosusu ba kota kona kati na Congo na biso ba ngati ba ba baby sa Congo na biso nde yango nde na bite na zipi mwana mosi ni sa so tuna mokirobo na inite yango basi bazala kana kati ufona kota pe na simba bondoki na bundira pe Congo na ngebo.
Mais après s'être enrôlés, nombreux sont ces enfants qui regrettent car les conditions dans lesquelles ils vivent sont pénibles. C'est le cas à Mbandaka. Dans ce chef-lieu de l'Équateur, les démobilisés du quartier Kongo-Assa se sont soulevés contre leurs encadreurs dans la nuit du mardi au mercredi dernier. Ils protestent contre leurs mauvaises conditions d'hébergement dans le site. Mais que pensaient-ils gagner en intégrant l'armée?
Et là, quand on se fait penza. Mais, et là, quand on dit moi qu'on dit ma pornini,
Je suis allé à la maison.
et si mon amour a quitté mon salaire on a eu la qui coûte ça et en gros la bundi déjà la fin de notre casse ouais la bunda ka bangi messe kanyobayonga.
Dans leurs revendications, les démobilisés accusent aussi leurs encadreurs de détournement des fonds destinés au fonctionnement de leur site. Il faut savoir que cette situation ne se retrouve pas seulement à Mbandaka, mais un peu partout dans le Congo, partout où les enfants soldats ont été démobilisés. À Kindu, par exemple, il y a également mécontentement du côté des enfants démobilisés. Quelle est leur situation actuelle?
La situation des enfants enrôlés par les groupes armés qui ont été démobilisés, soit autodémobilisés, c'est diffère selon qu'il s'agit de ceux qui vivent au centre-ville ou à l'intérieur de la province du Maniema. Pour la plupart d'entre eux, je dirais, après leur démobilisation par la 7e région militaire, la MONUC et la CONADER, ils sont pris en charge pendant 3 mois par l'ONGCR international. Cette prise en charge s'est faite par la nourriture, les soins médicaux et l'habillement. Malgré la prise en charge, ils se posent souvent des problèmes lors de leur insertion sociale. Ces problèmes arrivent par manque d'informations en rapport avec les processus d'EDR. Mais après réinsertion, nombre d'entre eux reviennent auprès de l'ONGCR international pour réclamer un petit cash, alors que ces cash, normalement, d'après ce que nous a rapporté le responsable du CAIR, doit être remis aux ONG locales. Ce sont ces dernières qui ont la charge de mettre en place des programmes pouvant favoriser leur insertion sociale, soit par la scolarisation ou l'apprentissage d'un métier de leur choix.
Et à l'intérieur de la province, mamie, comment ces enfants sont-ils traités? Est-ce que toutes les structures sont bien organisées ou bien mises en place?
Oui, à l'intérieur de la province, surtout, ces enfants sont délaissés vraiment. Après avoir s'auto-démobilisé ou démobilisé par les autorités locales, ces autorités sont sans programme de réinsertion et abandonnent aussi ces enfants à leur propre sort. C'est le cas, par exemple, des enfants de Koé qui ne bénéficient d'aucun appui. Il y a 3 mois, ces enfants menaçaient de retourner d'ailleurs dans leur ancien métier de maïmaï. Suivons ici leur témoignage.
Depuis qu'on nous a démobilisés, on ne reçoit rien. Pas de cahiers, ni d'habits. Nous souffrons. Nous ne recevons rien. Je veux une aide. Nous ne recevons aucune aide. On ne reçoit rien. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes.
Oui, voilà, en principe, ces enfants démobilisés devraient passer au centre d'orientation pour leur identification par la Commission nationale de démobilisation et de réinsertion, la CONADER en sigle. Mais malheureusement, ce centre d'orientation n'est pas encore opérationnel dans la province du Maniema aujourd'hui.
Et à quand l'ouverture de ce centre? Aucune idée?
Juste là, nous savons seulement que c'est le lundi dernier que les travaux ont été amorcés. On ne sait pas combien de jours les travaux vont durer. Vraiment aucune idée du jour du finissage de ces centres.
Pour certains enfants soldats, la démobilisation par contre a apporté quelque chose de positif dans leur vie. Comme l'explique ici cet enfant soldat démobilisé de Bounia.
Donc, docteur qui est rébellé ici dans la mort en Ambiso.
Ce qui est sûr, c'est que la démobilisation permet aux enfants de laisser les armes et d'intégrer la vie civile. Cependant, il faut savoir que les enfants soldats se voient voler leur enfance et sont souvent victimes d'actes d'une grande brutalité, ce qui est contre le droit international relatif à l'enfant. Il est donc du devoir de toute la communauté de s'impliquer pour une meilleure réintégration de ses enfants, eux aussi l'avenir de demain.
Merci beaucoup, Julie Laure, pour ce reportage qui nous a amené presque, je dirais, partout au Congo. On a été à Bounia, à Kindu, à Mbandaka. Vraiment, merci pour ce grand reportage. On vous retrouve donc dans ce studio avec nous pour quelques précisions, Julie Laure Mbalivoto. Mais avant que je ne vous pose quelques questions, j'aimerais qu'on se rende également dans la province du Katanga, précisément à Lubumbashi, pour parler des conditions de vie difficiles des démobilisés du quartier Ewabora, n'est-ce pas, ou quelques cas de rouge sont signalés, n'est-ce pas? Qu'en est-il exactement?
Oui, dans ce camp du quartier Ouabora, comme vous l'avez dit, une cinquantaine de démobilisés vivent avec leurs familles provenant de toutes les provinces du pays. Et selon notre confrère Paulien Munanga de Radio Kabyle Lubumbashi, il y a 2 semaines, le site était surpeuplé et plus de 100 démobilisés y habitaient. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont été rapatriés par la CONADER. Bon, même plusieurs cas de maladie ont été disparus aussi. Mais malgré ces efforts, les conditions de vie de ces ex-combattants restent toujours précaires, Nicole. Il y a insuffisance de nourriture pour gagner un peu d'argent et pour combler tant soit peu leurs besoins. Ces démobilisés, ça donne à des travaux ménagers chez des particuliers.
Donc le problème continue, les problèmes persistent.
Le problème persiste.
Tous ceux qui nous suivent et qui aimeraient réagir sur cette question de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, des ex-enfants, soldats, n'hésitez pas à nous envoyer vos SMS au 081 070 2050 ou encore à nous écrire à action@radiocapi.net. Sachez que nous avons avec nous ici dans ce studio le coordonnateur général de la CONADER qui est là, qui est bien placé d'ailleurs pour répondre à toutes vos questions, Monsieur Daniel Kawata. Mais avant qu'on lui donne la parole, on va poursuivre parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce problème de réinsertion et de mobilisation des enfants soldats. Nous savons qu'à Ouabora, vous avez dit qu'il y a des problèmes avec de telles conditions. Est-ce qu'il n'y a pas crainte de maladie?
Oui, c'est inévitable parce qu'avec une seule toilette dans ce camp Ouabora, mal entretenu en plus pour plusieurs personnes dont les familles et les enfants, il y a toujours risque de contamination. D'ailleurs, l'ONG Médecins Sans Frontières qui s'est rendue sur place dernièrement a signalé des cas de rougeole. Même les démobilisés eux-mêmes affirment qu'il n'existe aucune structure de prise en charge de soins médicaux. Il y a presque un mois aussi et demi, un enfant est mort de la rougeole. Je vous propose d'écouter un des démobilisés.
Na moyo alikuwa kama mtoto hapo tuna muziki. Tunaambia watu wa Nigeria wanakuwa wanaangalia. Njoo yatakiwa watoto mbaya sana. Wao masiza, madeza, de moi, watakisa si wenyewe kushia vitu. Njoo watu tunatetea watoto na dawa ya kiasiri. Wapenda mtu anajua sasa wafuanishia mtoto hii dawa. Njoo Mungu asaidie yako. Manapona kujikomea baya aviaisha. Tuna mwede mobilize ule mule. Na hivi mwatakia paka ile malali, yeye anawatia majimu sasa.
On se rend compte que la CONADER a du pain sur la planche.
Oui, oui.
La rougeole, même dans le camp où il y a des démobilisés, où on essaie d'aider certaines personnes, il y a des maladies qui viennent encore, je dirais, accentuer le problème. Et cette personne qu'on a suivie, je crois qu'il est bon quand même de résumer ses propos.
Oui, il confirme, comme je l'ai dit, le cas de rougeole dans le site de Ouabora. Mmh. Et dernièrement, il a dit que la rougeole a attaqué beaucoup d'enfants. Un parmi eux a succombé. D'autres sont encore malades. Et pour aider tant soit peu ces enfants malades, ils se sont organisés entre eux. Ils ont rassemblé une partie de leurs biens vendus et pour acheter des produits traditionnels afin de les aider.
Donc la CONADER n'a rien fait pour les assister?
Il n'a rien fait.
À savoir si la CONADER était au courant. En posant certainement la question à notre invité qui est déjà ici avec nous dans ce studio, mais vous avez eu à faire cette grande enquête, vous avez eu certainement à tendre le micro directement à la CONADER. Qu'est-ce qu'elle a dit à ce sujet?
Oui, selon notre confrère de Lubumbashi, Paulien Munanga, les responsables de la CONADER ont affirmé que le rapatriement des démobilisés se poursuit et qu'il ne reste qu'un petit nombre dans le camp de Ouabora. Ils disent que d'ici là, tous les démobilisés seront rapatriés. Mais tout dépend du programme de la SNCC pour ceux qui doivent encore partir par le train. Et ajouter aussi que près de 50 000 dollars américains, c'est le montant déjà disponible pour le programme de réinsertion socio-économique de plus de 1 000 ex-combattants du Katanga aussi. Mm-hmm. C'est l'annonce qui a été faite le mardi dernier par le coordonnateur ad intérim de la CONADER dans le Katanga à l'occasion du lancement officiel des activités de réinsertion socio-économique des ex-combattants. Et ces ex-combattants, Nicole, bénéficieront d'une formation de 6 mois en menuiserie, pêche, agriculture, mécanique et élevage.
On retient qu'il y a beaucoup de choses qu'on programme pour les ex-combattants, formation par-ci, encadrement par-là, nourriture aussi, mais toujours les problèmes persistent. Prenons le cas par exemple d'une autre province, parce que là nous avons été au Katanga, mais j'imagine que vous avez été plus loin que le Katanga. Quels sont les problèmes que vous avez
pu relever? Oui, nous étions allés encore dans la province orientale, par exemple à Kisangani. Les éléments démobilisés, leurs dépendants en provenance de Bukavu éprouvent d'énormes difficultés aussi pour leur survie. Au total, plus de 60 personnes, dont 25 ex-combattants, attendent depuis 2 semaines leur évacuation dans leur milieu d'origine. Ils affirment être abandonnés à leur triste sort et à la merci des militaires invalides qui partagent les mêmes bâtiments avec eux. Nous avons récupéré le reportage de notre confrère Anselme Mansois qui nous avait proposé ça au début du mois de mars. On l'écoute.
C'est au cours de la première semaine de ce mois de mars que ces démobilisés sont en transit à Kisangani. Ils dénoncent les mauvaises conditions de vie au site H où ils sont hébergés depuis leur arrivée à Kisangani. Témoignage d'un ex-combattant. Nous avons quitté Bukavu comme démobilisés pour Kisangani. Curieusement, nous sommes placés dans le site H avec les militaires blessés. Depuis qu'on est là, Conader ne s'occupe pas de nous, il n'y a pas à manger, pas de médicaments. Nous disputons des toilettes avec les militaires et nous sommes même chassés. Nous demandons Conader de nous évacuer dans l'immédiat. Sinon, qu'elle nous remette nos armes et nous allons remettre les cartes de démobilisation. Jean-Pierre Ouimbassa, coordonnateur intérimaire de la Conader province orientale, rejette toutes ces accusations. Pour lui, son institution est dotée d'un budget qui lui permet de prendre en charge tous les démobilisés de passage à Kisangani.
Les gens qui sont en transit sont pris en charge par la Conader. Nous avons des preuves, nous avons des états de besoin des factures de nourriture achetées pour ces gens chaque jour autour de 54$ par jour pour les gens qui sont au CTH. Chaque soir, nous les achetons. De la farine de manioc, des poissons salés, soit des haricots, du riz. On fait chaque jour au moins le minimum possible pour que les démobilisés mangent.
Quoi qu'il en soit, le coordonnateur provincial de la Conader par intérim annonce l'évacuation de ces démobilisés pour leur destination finale au courant de cette semaine par des avions du Programme alimentaire mondial. Des rotations sur Isiro, Bukavu, Beni et Kinshasa ont débuté depuis lundi dernier, a-t-il précisé.
Également des problèmes là où on vient de suivre notre confrère Joli Lom Balivoto, autrement dit dans la province orientale, hein, qui s'engage précisément. J'aimerais que tous ceux qui ont des questions, vraiment, si vous avez des précisions à porter, hein, n'hésitez pas, envoyez nos SMS au 081 070 20 50. On va évoluer parce que il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. On va retourner à Bounia, hein, pour joindre Jean-Claude Bissigabo, je crois, de Radio Capi Bounia, qui nous dit comment évolue en fait la situation, hein, des démobilisés.
En Ituri, les efforts sont en train d'être faits pour la réinsertion des ex-combattants. On constate par exemple, à plus ou moins 5 km du centre-ville de Bounia, 80 démobilisés de l'armée et aussi qui ont réussi un financement du PNUD font la fabrication de briques afin de se prendre en charge. Et depuis le mois de septembre, Joli, ils ont déjà monté 5 fours. Toujours dans la ville de Bounia, au centre-ville, le PNUD a pris un groupe de démobilisés dans les domaines de la menuiserie. Et pour ça, nous avons visité un atelier de l'ONG AFAEJ. Donc c'est une ONG locale qui encadre ces jeunes dans la menuiserie. Donc pour le moment, ces démobilisés profitent de la menuiserie pour gagner aussi leur vie.
D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il de problèmes pour la réinsertion de ces démobilisés dans le district de l'Ituri?
Sans doute, Joli, les grands problèmes sur la réinsertion des démobilisés en Ituri se posent autour des kits d'installation. Parce que après la Conader, il y a le projet qui ont été financés par les organisations internationales ici sur place. Et après ça, il y a les kits d'installation. Donc après avoir subi une formation dans les ONG locales, les démobilisés doivent recevoir un kit d'installation. Et comme ça traîne, ça cause beaucoup de problèmes, ça met beaucoup de malentendus entre les démobilisés, ces ONG locales. C'est ça les grands problèmes. Et la plupart des démobilisés ici sur place disent que les kits qu'on leur donne ne correspondent pas au montant qu'on a débloqué pour leur réintégration.
Oui, Jean-Claude, dis-moi, face à ce problème, quelle est la réaction des responsables de ces ONG?
Les responsables disent souvent que les démobilisés ont parfois des peines pour comprendre les programmes qu'on a planifié pour leur démobilisation. Donc, il y a toujours des malentendus et vous comprenez que les démobilisés sont des gens là qui ont évolué dans l'armée. Ils ont des peines pour comprendre ce qui est planifié sur papier. Donc, et ils pensaient qu'on devait leur remettre l'argent au lieu des kits. Donc, beaucoup d'entre eux veulent avoir de l'argent au lieu d'avoir le matériel, les kits pour leur installation.
Oui. Est-ce qu'on peut savoir le nombre exact? Merci beaucoup, Jean-Claude Bissigabo.
Merci.
Merci, joli mot de vôtre.
Je vois que vous avez mis fin à la conversation, vous avez posé une question pertinente, hein. Mais bon, c'était bon aussi, peut-être que notre invité,
Monsieur Damien Kawata,
vous nous donnera des précisions là-dessus. Mais avec vous, on va conclure, je dis non, parce que bon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de côtés négatifs. Il n'y a que des côtés négatifs avec la CONADER.
Oui, c'est vrai qu'un peu partout dans le pays, on parle que des difficultés qu'éprouvent les ex-combattants, mais on sait aussi que dans d'autres coins, les démobilisés reçoivent des formations sur la bonne gestion d'une petite exploitation agricole, d'un étang de pêche ou d'une activité forestière, et dans d'autres formations aussi. Dans le sud Kivu, par exemple, le mardi dernier à la CONADER, Bukavu, on a procédé à l'opération de paie de filet de sécurité aux démobilisés. L'opération a concerné environ 3000 démobilisés originaires des territoires de la périphérie de Bukavu, et plus au moins 500 démobilisés de Bukavu ont été payés pour le mois de janvier et février. Et l'opération s'est poursuivie également pour les démobilisés originaires de Kaleye, puis ceux de Kabaré, Walungu et Idjiwi.
Mais malgré tout ça, on retient qu'il y a plus de problèmes hein, que de côté positif. Hein. En tout cas,
on en saura un peu plus avec M. Kawata.
Merci encore, Julien. Je vous en prie, et à la prochaine.
À la prochaine.
Okapi, fréquence de la paix.
Voilà, je vous le dis toujours, c'est bien de réagir à temps avec vos SMS. Nous allons consacrer donc 30 minutes avec notre invité afin qu'il puisse nous expliquer en long et en large en quoi consiste exactement cette démobilisation et réinsertion des ex-combattants, parce que nous avons suivi tout à l'heure, je dis leur en long et en large, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Est-ce que réellement il n'y a que le côté négatif et non le côté positif. Certainement que notre invité nous le dira, mais j'aimerais toutefois vous rappeler avant que vous avez vraiment la possibilité d'envoyer vos SMS à temps, hein, cher auditeur. Vous avez 30 minutes au moins pour le faire. Donc faites-le à temps au 081 070 2050 ou écrivez-nous à action@radiocapi.net. Daniel Kawata, bonjour.
Bonjour Nicole.
C'est un plaisir que de vous recevoir ici en tant que coordonnateur général de la Commission nationale de démobilisation et de réinsertion, CONADER en sigle. Vous avez suivi le reportage de Jolie, hein?
Oui, je l'ai suivi. Effectivement, elle a reporté des faits, même si quelques-uns datent de l'année passée, mais c'est des faits réels qui ont existé. D'autres peut-être continuent encore à exister à ce jour. Il est question ici que je puisse brièvement expliquer le programme, comment il fonctionne.
C'est important de le faire.
C'est en expliquant cela que les uns et les autres comprendront quelles sont les natures de problèmes que nous avons et qu'est-ce que nous faisons pour redresser ces problèmes-là. Premièrement, le programme a été conçu en 5 étapes. La première étape, c'est une étape de recensement. Et ça, c'est de la responsabilité de l'armée et de la MONUC, qui doivent recenser les gens et connaître plutôt la responsabilité de l'armée. La deuxième étape, c'est l'étape du désarmement. Une fois que les troupes sont dénombrées, la deuxième étape, c'est l'étape de désarmement qui se fait par le contrôle d'armement, l'identification des individus avec leurs armes. Et ça, ça se fait par la MONUC, le concours de la MONUC avec l'état-major général. La troisième étape, c'est au moment où les gens sont désarmés, ils passent dans ce que nous appelons les centres d'orientation. Et c'est là que commence la responsabilité de la CONADER, dans ce centre-là où ils reçoivent l'information nécessaire pour les aider à se décider s'ils veulent choisir la vie civile ou s'ils veulent choisir la vie militaire. La quatrième étape étant l'étape que nous appelons transitoire, où les gens sont déplacés des centres d'orientation vers leur province de réinsertion. Pendant ce temps-là, ils reçoivent un montant en cash pour leur permettre de survivre avant que la cinquième étape ne commence, qui est l'étape de projet de réinsertion proprement dite. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le programme est conçu. Alors, moi, je veux parler à partir de la troisième étape.
Oui, c'est la moindre des choses, puisque la CONADER intervient à la troisième étape. Voilà. Mais on retient. Ouais, j'aimerais qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est que à la troisième étape, au moment où la CONADER intervient, les problèmes commencent.
Voilà, justement. Alors, les problèmes sont dans toutes ces étapes-là, je peux te rassurer. Quand les gens arrivent dans les centres d'orientation, ils sont pris en charge par un partenaire. Et il faut que je vous dise ici d'emblée que la CONADER fonctionne ou travaille avec des partenaires. À chaque étape, Il y a des partenaires. Dans les centres d'orientation, la CONADER ne gère pas les centres d'orientation. La CONADER a signé un contrat ou des contrats avec des partenaires qui gèrent les centres d'orientation, qui doivent nécessairement nourrir ces gens-là dans les sites.
Qui sont ces partenaires?
Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Caritas, c'est un des partenaires. Je vois à l'est là-bas, il y a des partenaires comme GTZ, c'est des partenaires qui sont connus hein, dans le monde humanitaire.
Avant que vous n'alliez plus loin, vous allez vous étendre en long et en large, mais il est bon quand même de nous dire exactement où la CONADER intervient. Tout à l'heure, je l'ai dit, elle l'a précisé, mais elle n'est pas allée partout.
Justement, je vais vous donner tous ces détails.
Allez-y.
Donc, je voulais d'abord baliser la structure. Donc, à chaque étape, troisième étape, nous travaillons avec trois partenaires importants.
Les gestionnaires au moment du projet de réinsertion.
Non, nous ne sommes pas encore au projet de réinsertion.
Donc, toujours au centre de transit.
Oui, le projet de réinsertion, c'est la cinquième étape. Au niveau des centres d'orientation, nous avons trois partenaires. Il y en a un qui s'occupe de nourrir les gens qui entrent. Il y a un autre qui s'occupe, qui a fourni les matériels d'identification qu'on utilise pour identifier les individus et créer une base de données. Il y a un qui s'occupe de paiement, une fois que les gens sont identifiés, avant qu'ils sortent. D'ailleurs, il y en a quatre. Quatrième partenaire, c'est celui qui s'occupe de les évacuer, donc de les transporter. Donc, vous pouvez vous imaginer, si nous avons un problème avec le blocage de machines dans les sites, les gens feront plus longtemps que prévu. En principe, le programme a prévu de faire 5 jours, maximum 7 jours dans les sites. Mais ils en font des fois une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois, quand il y a des pannes de ce genre-là, parce que les machines étant sophistiquées, il faut des gens qui connaissent les manipuler, qui doivent se déplacer dans un grand pays comme celui-ci. Des fois, ils prennent 3-4 jours avec les horaires de vol.
On en sait un peu plus sur les centres d'orientation.
Donc, ça, c'est les centres d'orientation. Maintenant, quand quelqu'un quitte les centres d'orientation, ils sont dispatchés dans les différentes provinces. Donc, vous voyez des avions qui viennent récupérer. Par exemple, dans le centre de Boyeka, on peut avoir 1000 personnes. Ces 1000 personnes sortent, 500 sont dans toutes les destinations possibles de notre pays. 50 vont aller dans le Bas-Congo, 50 autres ou 100 autres dans le Katanga, et puis vous citez 120 dans le Nord. Ils sont envoyés comme ça. Les provinces reçoivent ces gens-là. Ces gens sont censés passer 2 ou 3 jours dans un site de transit temporaire. Et c'est de ça qu'il s'agit à la quatrième étape-là. Par exemple, ce dont on venait de parler de Ewabora à Lubumbashi, c'est un des sites comme ça. C'est pas un site régulier où les démobilisés sont censés rester. Ça doit être une maison que la CONADER a prise plutôt en location pour accueillir, pour ne pas les laisser comme ça dehors, pour les accueillir afin que en attendant qu'ils soient déplacés. Et ici, en ce moment-là, il s'agit de différents lieux de destination. Vous savez, notre pays dévore nos programmes de voyage comme tel. À Lubumbashi, par exemple, certains doivent aller à Kalemi, d'autres à Kamina, d'autres encore à Dilolo. Et là, nous dépendons du train.
Donc, vous voulez dire que c'est au moment de la réinsertion que les problèmes commencent.
Donc, les problèmes sont à tous les niveaux.
Pas avant, c'est-à-dire au centre d'orientation.
Les problèmes sont à tous les niveaux.
Mais surtout.
Les problèmes dont vous venez de parler ici, les problèmes commencent au moment où les gens sortent des centres d'orientation, ils sont maintenant en route vers chez eux.
C'est là qu'il y a une désorganisation totale.
C'est là qu'il y a des problèmes qui arrivent. Parce que maintenant, nous sommes deux fois habités à des difficultés de transport. Comme je viens de le dire, il y a le cas. Je vais répondre à certains cas. Par exemple, à Lubumbashi, quand on venait de parler, parce qu'on a parlé de Lubumbashi. Dans ce site-là, une cinquantaine de familles débarquent. Bon, les familles viennent toujours avec des dépendants, donc des femmes, enfants et dépendants, donc membres de famille, ce qui c'était un nombre important. Ils arrivent dans un site que la CONADER a pris, un site qui ne peut pas encadrer toutes ces personnes.
Mais pourquoi les avoir envoyés là-bas alors?
Parce qu'il n'y a pas un autre lieu où on pouvait les envoyer.
Mais il fallait vous organiser avant de les envoyer là-bas. C'est la moindre des choses.
Il y a des données que nous ne maîtrisons pas. Jusqu'au moment où les gens viennent, nous ne savons pas. Aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas combien de gens vont aller où. Parce que tout dépend du choix que les gens opèrent dans les centres d'orientation. Avant qu'ils n'opèrent ce choix-là, nous ne savons pas qui ira où et combien iront où. Donc c'est au sortir, après une semaine, que nous avons des chiffres qui nous viennent de partout. Nous avons 18 centres d'orientation. De ces 18 centres d'orientation...
Dans le pays.
Oui, dans le pays. Nous avons 18 centres d'orientation. Si tous ces centres sortent les gens, la capacité de traitement est de 100 personnes par jour. Donc vous pouvez vous imaginer 1800 personnes par jour, et si tout marche bien, nous arrivons à 12 000 personnes par semaine, qui doivent être, ça c'est des ex-combattants sans compter les membres de famille.
Mais pourquoi amener un nombre important de personnes, donc vous les faites quitter le centre d'orientation vers le site de transit, vous prenez un nombre important, pourquoi? L'idéal serait de prendre un petit nombre et puis après les réinsérer dans leur famille.
Si vraiment les autorités t'entendaient comme ça, ils vont dire que tu n'es pas d'accord que nous puissions respecter le calendrier électoral.
Oui, mais il y a aussi un problème d'organisation.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'avant toute chose, vous faites ce qu'on appelle une planification.
La planification existe, c'est pourquoi il y a tous ces lieux-là. Mais ce que vous devrez comprendre, que nous travaillons avec des contraintes. En amont, là où je vous ai dit qu'il y a le recensement et le contrôle d'armement, il y a des gens qui sont recensés et qui attendent. De l'autre côté, l'armée attend les gens qui ont décidé d'entrer dans l'armée pour former vite des unités à brasser. Vous comprenez? Donc on ne peut pas leur dire que parce qu'il y a 1000 personnes ici que nous devons dispatcher à gauche, à droite, vous attendez d'abord. Non.
J'imagine
qu'au
niveau de la Conadair, avec le temps, vous avez pu vous dire que, par exemple, pour un centre d'orientation, par jour, nous aurons peut-être 100 personnes qui quitteront ce centre pour aller vers...
Ils quittent à la fin de la semaine.
Pour aller vers à la fin.
Okay. Ils quittent chaque semaine.
Donc, les mêmes personnes, pas les mêmes personnes, mais plusieurs personnes quittent plusieurs centres. Vous avez dit qu'il y en avait 18.
Merci.
On se retrouve peut-être avec 1800 personnes, je donne un exemple comme ça au hasard, dans un site de transit.
Bien sûr, bien sûr.
Et ce site-là ne peut contenir ces 1800 personnes.
Non, pas du tout.
Alors pourquoi ne pas réduire? Puisque à la longue, vous avez déjà une organisation, vous vous dites non. Si on prend trop de gens, ça va poser problème.
Je vous disais, Nicole, tout à l'heure, que les faits qu'elle vient de soulever, c'est des faits qui sont en train d'être passés. Par exemple, le cas de Lubumbashi, on vous a dit que ces gens-là ont été évacués. Ils ont fait deux semaines.
Après deux semaines seulement.
Après deux semaines. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas moyen de les évacuer. Les trains n'étaient pas disponibles. Comment voulez-vous qu'on les évacue pendant que le moyen d'évacuation n'est pas disponible?
Mais vous savez, le problème, c'est justement pas là que les problèmes arrivent.
Ouais.
Parce que ces gens-là attendent, ils n'ont rien à manger.
Non, c'est faux.
Ils n'ont rien pour s'habiller. Ils n'ont pas de moyens.
Non, s'habiller, ça c'est autre chose. Ils ont à manger. Vous avez entendu ce
dans le site de transit.
Bien sûr. Comment on peut les laisser? Ils ont été soignés.
Mais les plaintes sont là.
Il fallait
y a même
que...
des cas de maladie.
Oui, bien sûr. Il y avait des cas de maladie qui ont été soignés.
Il y a eu des cas de mort avec la rougeole.
Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y avait des cas de maladie, il y avait des cas de mort. Un mort...
Vous êtes au courant.
Moi, je suis au courant.
Et ce sont eux-mêmes les démobilisés qui se sont organisés pour...
Bon, ça c'est, disons, avant que nous soyons au courant de cette maladie-là.
Vous n'étiez pas au courant avant?
Non, mais nous sommes mis au courant. Parce que les cas sont là, jusqu'à ce que vous receviez les gens. Maintenant, il est question de savoir, est-ce qu'ils ont attrapé cette maladie, de là où ils sont venus ou pendant qu'ils étaient là. Quand ils étaient là, moi j'ai des preuves que ces gens ont été soignés par nos soins. Par,
preuves.
Ah oui.
On ne va pas revenir sur le témoignage de la personne, vous avez compris ce qu'il a dit.
Tout à fait. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que votre collègue là-bas aurait dû aussi interroger les responsables de la Conadair sur place, comme l'autre l'a fait à Kisangani. Vous avez entendu un rapport contradictoire du coordonnateur intérimaire là-bas, qui disait qu'effectivement, nous payons, nous les nourrissons. Parce que nous n'avons pas... Nicole, n'oublie pas que les fonds que nous utilisons ne sont pas les fonds qui nous sont donnés par l'intérieur, c'est-à-dire par... ce n'est pas nos fonds propres. C'est des fonds qui sont venus de l'extérieur avec des restrictions. Il y a des dépenses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des dépenses que nous sommes supposés faire en tant que nous-mêmes en tant que gouvernement. Il y a des dépenses que la communauté internationale a approuvées au-delà desquelles nous ne pouvons pas faire. Donc, il y a donc certains de ces cas. Si nous forçons aujourd'hui d'intervenir avec des sites de transit, en plus de ce centre d'orientation, oui. Ce sont des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues.
Vous avez un budget, j'imagine.
Écoute-moi, ce qui était prévu, c'est que je pense que c'est pourquoi c'était important que je donne tous les détails de ce programme. Quand quelqu'un se fait démobiliser, il reçoit 110 dollars. C'est supposé que s'il est dans sa province...
Je vous coupe un peu la parole. Mais, laissez-moi d'abord terminer. Il le reçoit à partir d'où ?
Laissez-moi.
Du centre d'orientation
ou du centre d'orientation, parce que je vous ai dit que là, il y a un partenaire qui fait le paiement.
D'accord.
Il le reçoit au centre d'orientation. Il reçoit ses 110 dollars. C'est prévu que avec ses 110 dollars, il peut se déplacer s'il est en province pour aller chez lui.
Ça, c'est en province.
Oui, oui, en province.
Mais s'il doit faire 2 semaines dans un
pays... Non, écoute, il peut se déplacer en province.
Oui.
Maintenant, nous sommes au Katanga. Quelqu'un qui va à Likasi n'a pas besoin de rester dans ce site d'hébergement. Vous comprenez? Quelqu'un qui va là où il peut utiliser les 50 dollars pour se déplacer, il n'a pas besoin de rester là. Mais la tendance de certains démobilisés, c'est qu'on les prenne en charge juste devant la maison. Vous voyez cette tendance-là.
Mais c'est ce qui devrait se faire,
non? Non, ce n'est pas comme ça que le programme a été conçu. Le programme et ceux qui l'ont financé ont dit, vous démobilisez quelqu'un, il est dans sa ville, il va aller quelque part où ça lui coûte 50 dollars, donnez-lui 50 dollars.
Alors l'idéal serait carrément de supprimer tous les sites de transit. Quand vous arrivez au niveau
si nous supprimons tous les sites de transit,
oui.
Les gens qui débarquent à l'aéroport resteront à l'aéroport. Vous comprenez? Si nous supprimons les sites de transit, les gens que nous débarquons à l'aéroport, par exemple, de Lubumbashi, où est-ce qu'ils vont être?
Si le train
vient dans 2 jours, 3 jours, ces gens-là, nous les mettrons.
En fait, les personnes qui s'embarquent dans cet avion-là sont des originaires de cette province.
Bien sûr.
Alors, bon, je pense que quand ils arrivent à l'aéroport, ils savent où aller, normalement.
C'est ce qui est supposé être. Mais ils se disent, non, nous ne savons pas aller là-bas, vous devez nous prendre en charge. Et dans la moindre des choses à faire, c'est d'organiser le minimum possible pour dire, en attendant que vous preniez votre vol demain ou votre avion, plutôt votre train le lendemain, vous pouvez dormir. Mais ces gens viennent avec des enfants. On ne va pas les laisser comme ça parce que ils ont reçu les 50 dollars, ils attendent 2 jours dehors. Non. Nous essayons de faire le minimum. À Kisangani, vous avez appris qu'ils étaient dans le site H parce que nous n'avons pas de site. Nous négocions avec les gens qui habitent là pour dire, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ils sont censés être allés par exemple à Isiro. Et il n'y a pas d'avion qui part régulièrement là-bas. Il faut organiser des vols appropriés. Ils vont faire une semaine et dans cette semaine-là, ils sont nourris.
Je crois qu'il y a quand même un problème de coordination à ce niveau.
Tout à fait. Bon, mais moi, je voulais d'abord vous expliquer.
Allez-y rapidement, comment... parce qu'il y a aussi les questions des auditeurs qui attendent.
Oui, mais c'est parce que il ne reste plus que quelques minutes. Je voulais aller en long et en large, mais bon, il y a toutes ces questions-là. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que il y a ces étapes-là. Et quand les gens arrivent au niveau de ce site de transit, ici à Kinshasa, ils vont aussi dans un site de transit. Alors, ils sont redéployés dans leur province. Ils sont redéployés plutôt dans leur milieu de réception. Mm-hmm. D'autres restent là. Et puis, voilà.
Il y a au total combien de sites de transit exactement dans le pays?
Non, nous n'avons pas... Les sites de transit, nous n'en avons pas besoin tout le temps. C'est quand nous savons, vous n'allez pas louer une maison sans savoir quand est-ce que vous allez l'utiliser. Nous les utilisons quand, dans notre programmation, nous savons qu'il y aura au moins 1000 personnes qui vont passer par ici à partir de la vague que nous sommes en train de démobiliser. C'est en ce moment-là qu'on prend des dispositions. Mais on ne peut pas, Nicole, même si on a assez d'argent, garder ces locations-là de mois alors qu'on en utilise. Mm-hmm. Parce que on nous jugera d'avoir aussi mal utilisé.
Alors, on va conclure.
Ce que je voulais dire, c'est que quand les gens maintenant retournent chez eux, nous avons alors des partenaires qui les aident avec le projet de réinsertion.
Leur donne des kits.
Qui leur donne des formations, et après, ils ont des kits. Et là, les gens sont en train de respecter contre certains kits.
Oui.
Et quand nous entendons ça, nous devons retourner à ce partenaire-là pour dire...
Juste une précision, ces kits de réinsertion leur sont remis au niveau des sites de transit?
Non.
C'est à quel moment?
Les kits de réinsertion, quand ils quittent les sites de transit, ils rentrent chez eux.
Directement.
Chez eux à la maison.
Donc c'est supposé qu'ils ont reçu leur kit?
Non, ils n'ont pas encore reçu le kit.
Ah non?
Quand ils arrivent chez eux à la maison, le programme prévoit que depuis le moment où, Nicole, je vais te donner le programme national, tu dois le lire.
Mm-hmm.
Depuis le moment où la personne quitte le centre d'orientation, on lui paye 110$. Tous les mois qui vont suivre, il doit recevoir 25$
mm-hmm.
pendant 12 mois. Alors, ça lui permet un peu de
suivre. Il doit recevoir 50$.
25$.
25$. Pendant combien de mois, vous avez dit?
Pendant 12 mois.
Et c'est toujours ça qui se fait?
Oui, oui. C'est pourquoi vous entendez des boucans ici. Quand on est un peu en retard pour payer le 25$, on casse le verre, on casse les vitrines et tout ça. Donc, ils reçoivent ça. Pendant ce temps-là, il se repositionne parce qu'il a besoin de faire le choix dans quel domaine social il veut se réinsérer. Peut-être qu'au niveau du centre d'orientation, il a dit, moi je veux faire l'agriculture. Mais une fois arrivé dans son village ou dans son milieu de réinsertion, il dit non, ici je vois que l'agriculture ne marche pas, je me réfère le petit commerce. On lui laisse un temps pour réviser son choix. Et quand il révise son choix, il y a maintenant les partenaires qui doivent lui assurer une certaine formation dans le domaine de l'insertion qu'il a choisi et lui apporter les nécessaires parce que les partenaires qui ont financé ce programme, la Banque mondiale et les MDRP, ils ont limité le montant cash qu'on doit payer en cash. Le reste doit leur être donné sous forme de kit de biens. C'est là qu'on parle de kit de réinsertion qui doit leur être donné.
Daniel Kawata, on retient en tant que coordonnateur général de la CONADER que la réinsertion, en fait, l'argent qu'on remet à toutes ces personnes démobilisées, c'est déjà à partir de centres d'orientation parce qu'on va conclure. Mmh. Et puis les kits qu'on leur remet, c'est au niveau du projet de réinsertion.
Bien
hein.
sûr,
donc
bien
à la
sûr.
Dernière étape. Et là, ça se fait dans, je dirais, chez eux.
Oui,
hein,
oui. Dans leur milieu de réinsertion.
Dans leur milieu d'origine.
Et nous avons donc des partenaires dans ce domaine-là qui assurent.
Qui les suivent en fait chez
qui
eux.
Qui les suivent à partir
et
de ce
et
niveau.
Ça se fait pendant, en fait, on leur remet en plus par après, chaque mois, 25$.
Oui, jusqu'à ce qu'ils atteignent
pendant
12 mois.
Pendant 12 mois.
Voilà.
Et après, c'est fini.
Après, c'est fini.
On va lire quelques questions des auditeurs qui réagissent et qui suivent vos propos hein, avec beaucoup d'attention. Notamment celui-ci qui s'appelle Biki Lucende Kakule. Et lui nous dit, j'ai choisi ma communauté de réinsertion Goma. Et je suis démobilisée à Arou. Je suis encore à Arou, mais j'avais manqué les 125$. Comment? Je ne sais pas. Qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait exactement des démobilisés de l'Ituri? Alors, je ne suis pas rapatriée. Alors, quel sera mon sort aujourd'hui? Comment expliquer que cet homme n'a pas reçu, au départ, les 125$, c'est-à-dire au centre d'orientation? Ça, c'est la première question hein, que j'aimerais éclaircir.
Oui, oui.
Comment ça se fait qu'il n'a pas reçu cet argent?
Moi aussi, je ne comprends pas. Il n'a qu'à se présenter à notre bureau avec sa carte de démobilisé. Nous allons checker dans les ordinateurs pour voir pourquoi il n'a pas reçu. Et s'il n'a pas reçu, on va les lui donner. Ça, c'est vraiment pas un problème.
Parce que lui, il a précisé.
Et je ne sais même pas pourquoi il ne s'est pas fait déplacer. Parce qu'on a déplacé ceux qui se sont présentés le jour où on les déplaçait.
Ok, donc comme il est encore à Arou,
comme il est à Arou, il peut retourner, ça c'est vraiment pas un problème.
Mm-hmm. La question suivante est de Selza de Béni qui dit que la CONADER ait pitié des démobilisés du camp de Selza depuis Béni.
Depuis Béni.
Oui, le camp Selza de Béni. Je sais pas. Vous connaissez le camp Selza?
Moi je connais pas le camp Selza de Béni. Mm. À Béni, nous savons que nous avons un centre d'orientation à Mangango. C'est là que les gens se font démobiliser. Et certains, nous les avons démobilisés du centre de brassage de Nyaleke.
Mm-hmm.
Ça, ce sont les deux sites où nous avons démobilisé les gens. Le centre dont il parle ou dont il parle, je ne le connais pas.
Parce qu'il a précisé, il dit que la CONADER est pitié de se démobiliser du camp Selza, hein,
oui,
de Béni.
Je ne connais pas le camp Selza.
Parce qu'il souffre de faim, il dort à l'extérieur, près de ce camp. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement.
Pas, il faut que j'aie des précisions. Peut-être que c'est des gens qui ont accompagné les démobilisés. Mmh. Parce qu'il faut dire qu'il y a un problème avec les dépendants. Quand les démobilisés se déplacent, dans nos centres, nous accueillons même les dépendants de démobilisés.
Il y a beaucoup de problèmes. Hein, et surtout, les problèmes, j'ai l'impression que ces problèmes s'étendent plus au niveau des fonds, hein, des kits, ainsi que des moyens financiers que reçoivent les démobilisés. Ça pose toujours un problème.
Les données sur la démobilisation leur sont données avant qu'ils fassent le choix. Avant qu'ils fassent le choix, ils doivent savoir ce qui les attend. Ils ne sont pas dupés. Ils sont informés dans les centres d'orientation. Voilà, si vous choisissez la démobilisation, voilà ce que vous aurez. Point.
C'est vous qui le dites, bien savoir, parce que Papi Mohamed nous dit, je suis un démobilisé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu nos 25$. Pourquoi ça traîne?
Pourquoi il dit 25? Parce qu'il a été informé.
Oui.
Il a été informé, sinon
lui,
il ne le dirait pas
Bounia.
Maintenant. Oui, à Bounia, justement, nous sommes en retard, ça je dois...
Pourquoi toujours des retards?
Mais
parce que,
nous recevons les fonds ne sont pas là dans notre compte. Nous avons le devoir de le chercher, de l'attendre, de le prendre, de le dispatcher. Nous avons programmé la semaine prochaine pour l'Ituri, parce que en Ituri, il y a 15 000 démobilisés. Et quand vous parlez de paiements, ce sont des sommes énormes qu'on doit commencer à faire déplacer.
Au total, il y a combien de démobilisés que vous payez chaque mois?
Aujourd'hui, nous avons environ 60 000 démobilisés.
Qui reçoivent les 25 dollars chaque
Bien
mois?
Bien sûr, 60 000 démobilisés. Tu vois, ils sont répartis sur tout le pays, multipliez ça par 25. Vous voyez l'effort que nous devons faire pour rapatrier. Et puis, donc, le programme, il n'est pas un programme aussi facile que ça.
Ça, on l'a remarqué.
C'est très compliqué, très difficile.
Parce que les plaintes sont énormes.
Je suis confiant que nous allons relever tous ces défis-là.
La confiance ne suit pas le contrôle, parce qu'il y a un auditeur qui dit que le chef de l'État vienne visiter la province du Nord Kivu afin de se rendre compte de l'état pitoyable dans lequel vivent les démobilisés du Nord Kivu, vu que la CONADER a failli à sa mission.
Ah, ça, c'est sa déclaration. À ma connaissance, le Nord Kivu, on n'a pas encore commencé avec les programmes de réinsertion. On n'a pas encore commencé.
Mais vous avez fait la réinsertion, finalement, dans quelle province exactement?
Nous avons commencé avec l'Ituri. Parce que quand je parle de programme de réinsertion, c'est que nous avons identifié un partenaire, il a reçu le fonds, il peut commencer à travailler. Maintenant, nous venons d'identifier 20 partenaires sur l'étendue de la République qui vont bientôt commencer avec le projet de réinsertion. Donc, sur ce plan-là, s'il s'est fait déjà désarmer, démobilisé, et il reçoit les 25 dollars, la CONADER n'a pas failli à sa mission.
En Ituri, au Katanga aussi, il y a déjà le programme.
Bien sûr.
Bah oui. Donc finalement, vous êtes presque partout au Congo.
Nous ne sommes pas presque partout, nous sommes partout.
Sauf au Nord Kivu.
Pourquoi au Nord Kivu nous ne sommes
pas? Vous avez dit qu'au Nord Kivu,
au Nord Kivu, non, j'ai dit ceci. Au Nord Kivu, nous avons 8000 démobilisés, 8000. Nicole. Nous avons 8000 démobilisés au Nord Kivu. Ils ont une fois enlevé la pancarte là parce qu'ils attendaient les 25 dollars. Quand ils l'ont reçu, ils sont venus s'excuser d'avoir fait cette dégâts.
Mais
on ne peut pas dire qu'on n'a pas le travail là-bas. Il y a un travail.
Donc il y a du travail partout finalement.
Et partout. Nous avons, je n'ai pas amené la cartographie ici, je pouvais vous dire, nous avons déjà environ 45 000 démobilisés enregistrés en province que nous sommes en train de suivre régulièrement. Il y en a, donc nous avons déjà traité...
Qui ont déjà été démobilisés et réinsérés.
Qui sont démobilisés et qui sont dans leur province, recevant les 25 dollars et attendant de commencer avec le programme de réinsertion.
Mais saviez-vous, Daniel Kawata, que beaucoup de démobilisés renouent actuellement avec les groupes armés des suites du mal encadrement par la CONADER, notamment, nous dit un auditeur, ici à Mahagi, en Ituri. Ça, c'est Papa Issa qui nous le dit.
Oui, vous savez que l'Ituri, c'est un coin le plus compliqué de notre pays. La CONADER, bien sûr que le programme de réinsertion, Nicole, n'est pas la seule solution pour que ces gens-là ne retournent pas. Il faut un minimum de sécurité. Il faut un minimum. Donc, il faut qu'il y ait des paramètres qui accompagnent le programme de réinsertion. Vous savez qu'il y a certains coins de cette contrée-là qui sont difficilement accessibles. Comment les gens, les partenaires de réinsertion vont aller dans certains coins si déjà en cours de route pour aller retrouver ces démobilisés, ils se font attaquer en cours de route. Il y a la problématique de sécurisation de certains coins qui s'avère nécessaire avant de réussir même la sphère.
On va terminer par là parce que vraiment on a beaucoup de choses à vous dire et les auditeurs surtout ont beaucoup de choses à vous dire là-dessus sur cette réinsertion des démobilisés. Pourquoi toutes les institutions d'appui à la démocratie comme la CONADER par exemple ont des problèmes d'argent? Est-ce qu'il s'agit d'un détournement de mauvaise gérance? Ça c'est Patrick. En Bandaka, l'ONG qui prend en charge les ex-combattants accuse 3 mois de salaire impayé. Pourquoi? Autre réaction encore d'un soldat, Kassongo, qui dit « Depuis que nous sommes justement à la CONADER, il n'y a pas de courant, n'y a pas de courant. Il dit, depuis que nous sommes au CO, il n'y a pas de courant et l'eau en permanence. Nous mangeons difficilement. Que fait justement l'ONG Parc? Donc, je crois que lui, il est au centre d'orientation. Hein,
le centre d'orientation. Voilà. Alors, un problème.
Ils ont beaucoup de problèmes.
Les centres d'orientation fonctionnent avec des groupes électrogènes. S'il y a une panne de groupe électrogène, il faut qu'on change de groupe électrogène. Vous savez
et en
que...
plus, ils mangent difficilement.
Ah, s'ils mangent difficilement, ça, c'est moi qui l'apprends ici, parce que l'ONG Parc, c'est celui-là qui.
Oui, il a cité l'ONG en question.
Pour les... Et à Mbandaka, si les agents qui travaillent chez Asodev, Asodev, c'est notre partenaire qui s'occupe de trucs de Mbandaka. Mm-hmm. C'est Asodev qui est responsable de.
C'est pas la CONADER.
La CONADER est en partenariat avec Asodev.
Mm-hmm. Ouais. Alors, pour conclure, il y a beaucoup à faire. Le problème ne manque pas.
Il y a beaucoup à faire.
Mais pas de promesses en l'air.
Non, moi, je ne peux pas donner de promesses en l'air. La CONADER a reçu le fonds pour accompagner ce programme. La CONADER a identifié les partenaires qui vont accompagner. Moi, je parle maintenant de la réinsertion parce que c'est la partie la plus capitale. Il faut dire aussi et avouer que nous avions d'abord concentré nos efforts dans la démobilisation. Nous avons démobilisé autant de gens. Les mois qui suivent, nous allons concentrer nos efforts dans la réinsertion. Et je pense que certains de ces discours vont changer.
Affaire à suivre, Daniel Kawata, avec vous en tant que coordonnateur général de la CONADER, parce que je sais que après votre départ, les SMS vont continuer à tomber, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Hein. Merci beaucoup et à la prochaine. Je tiens également à remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont participé à cette émission en envoyant leur SMS. Retenez que à la mise en onde, il y avait Willem Lungamba, à la réalisation JR Lungembo et au micro Nicole Ngaka. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.